Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous et très belle année 2026 à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 231e émission de À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Avant d'aller plus loin, je tiens bien sûr à vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, santé, sérénité, curiosité et toujours cette envie de lever les yeux vers le ciel, de s'émerveiller et de continuer à s'interroger sur l'univers qui nous entoure. Vous l'avez peut-être remarqué, l'émission n'a exceptionnellement pas été diffusée en décembre. La période des fêtes de fin d'année a entraîné une organisation particulière des programmes et À toi les étoiles a donc marqué une courte pause. Nous voilà maintenant de retour pour ouvrir cette nouvelle année ensemble avec toujours la même envie, prendre de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Comme le veut la tradition, pour la première émission de l'année, À toi les étoiles donne la parole à sa marraine, Danielle Brio, ainsi qu'à son parrain, Jean-François Pellerin, qui souhaitent eux aussi adresser leurs vœux aux auditeurs. Et nous commençons tout d'abord par la marraine d'À toi les étoiles, Danielle Brio, astronome à l'Observatoire de Paris. Danielle Brio, bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2026.
Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors, meilleurs vœux à vous aussi, à tous les auditeurs, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour tous ceux... Tous leurs amis, tout leur entourage. Bon, que leur santé soit aussi bonne que possible, même excellente. Voilà, que tout se passe bien, que l'année soit légère et chaleureuse.
Danielle Brio, en tant que marraine d'À toi les étoiles, vous êtes plus spécialisée dans l'astronomie que le parrain Jean-François Pellerin est plus spécialisé dans l'astronautique. En matière d'astronomie, Danielle Brio, il y a plein d'espoir pour 2026 ?
On a beaucoup d'espoir, on a des tas de résultats en astronomie qui nous rendent tout à fait contents, heureux. On découvre des tas de choses sur les planètes, sur les étoiles, sur les galaxies, voilà. Donc la cosmologie, on a encore des tas de trucs à découvrir. Tout ça, c'est évidemment extrêmement passionnant.
Et on suivra ça tout au long de l'année 2026, bien sûr. Et nous avons le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Jean-François Pellerin, bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2026.
Bonjour Franck Menon et meilleurs vœux à la marraine aussi. Moi, j'ai envie de lancer un appel à toutes les générations qui n'ont pas vu l'homme sur la Lune il y a plus de 50 ans. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on revient vers la Lune, enfin, avec une femme astronaute, ça sera une première dans l'humanité. Enfin, les femmes vont avoir accès à ce fameux vol vers la Lune, parce que vous le saviez, il y a 50 ans, c'était quand même très, on va dire, un peu macho. Il y a eu 24 astronautes, c'était tous des hommes, tous des pilotes militaires, sauf Schmidt qui était géologue. Donc, bonne année à tout le monde. Donc, on pourra assister à tous ces grands événements. Et Sophie Henneau, nouvelle française, après Claudie Aigneret il y a 30 ans, qui va partir pour 8 mois dans l'espace et qui sera peut-être de la génération ensuite, avec Thomas Pesquet, à pouvoir accéder à des missions vers la Lune. Donc, je me mets à la place, moi, qui étais passionné en 72 avec Apollo 17, de me dire, j'ai vu des hommes sur la Lune, et de me dire que j'ai tous mes neveux, tous les petits de la famille qui vont se dire, ça y est, nous on a enfin notre programme Apollo, qui va être grandiose, puisque Artemis, c'est 60 pays du monde. C'est des astronautes canadiens dès la première mission. Donc ça n'a rien à voir avec un truc, je suis le meilleur, Apollo contre les soviétiques. Non, là c'est pour de la science, de l'astronomie sur une base scientifique, c'est tout ça. On va s'y implanter comme en Antarctique où on a des bases scientifique.
Alors justement, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, les astronomes commencent à étudier très très sérieusement. Il y a des quantités d'articles qui paraissent sur le sujet, enfin un certain nombre d'articles qui paraissent sur le sujet, de savoir comment installer un observatoire sur la Lune, quelles sont les conditions, etc., qu'est-ce qui sera plus intéressant à étudier, etc. Donc c'est vraiment, c'est plus de la science-fiction maintenant.
Ah oui,
c'est
oui,
vraiment de la science.
Oui. Mais vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Antarctique, il s'est écoulé au moins 50 ans entre les premiers. Là, en Terra Deli, il y a Concordia, il y a plein de bases avec des glaciologues, des experts.
Oui, des astronomes aussi.
Oui, avec des astronomes aussi.
Oui, j'ai eu une manip il y a quelques années, j'ai eu une manip à Concordia. Mm-hmm. J'y ai pas été, évidemment, c'est un peu compliqué pour les gens qui sont là-bas, la vie est quand même...
Mais bon, ça a été long, on s'est dit comment ça se fait qu'on reste 50 ans et on a été sur la Lune, ça a été rapide, et on n'y retourne pas. Mais maintenant, c'est officiel, on n'est pas dans de la fiction, hein. L'équipage s'entraîne, on avait des images de l'entraînement, des derniers entraînements, parce que quand vous êtes à 3 semaines, il y a une quarantaine médicale avant d'aller sur la Lune, donc... Le 7 février au matin, décollage...
On suivra de près, Jean-François Pellerin, le décollage d'Artemis 2 le 7 février prochain. Et d'ailleurs, on débriefera ensemble lors de la prochaine émission À toi les étoiles qui aura lieu le 15 février 2026 de 13h à 14h. Notez déjà dans vos agendas. Merci à la marraine et aux parrains d'être intervenus au début de cette émission À toi les étoiles pour présenter vos vœux aux auditeurs. Merci beaucoup Daniel Briot, je rappelle que vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris.
Ben je vous en prie, merci beaucoup et alors plein succès à votre émission évidemment. C'est très... Voilà, et abordons l'année avec enthousiasme et merci encore. Et au revoir à tout le monde.
Merci également au parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin. On aura tous les yeux tournés vers la Floride le 7 février prochain pour suivre de près le lancement d'Artemis 2. Et c'est très excitant pour moi qui n'a pas connu le programme Apollo. D'ailleurs, certains qui ont connu le programme Apollo disent qu'à travers le programme Artemis, ils revivent ce qui s'est passé il y a plus de 60 ans. Et comme je le disais, on se retrouve dans un mois, le 15 février prochain, Jean-François Pellerin, pour débriefer ensemble ce qui se serait passé durant cette mission Artemis 2. Merci encore à vous deux, encore une fois, meilleurs vœux et surtout aussi une bonne santé. À bientôt.
Et bien sûr, à bientôt.
Initialement, cette première émission de 2026 devait être consacrée à l'intelligence artificielle au service de la recherche et de l'astronomie. Les contraintes de calendrier ont conduit à repenser le contenu de cette édition. J'ai donc reporté cette thématique et j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui une émission différente, mais tout aussi fondamentale, au cœur même des grandes questions que se pose l'astronomie moderne. Le thème de cette 231e émission s'intitule « Le plus grand mystère de l'univers ». Pour cette émission, j'ai souhaité vous proposer un format un peu différent de d'habitude. Plutôt qu'un entretien classique, je vous invite à suivre un récit scientifique clair et accessible qui nous entraîne au cœur de l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Ce contenu a été réalisé par le petit astronome et propose une approche pédagogique et rigoureuse tout en conservant ce sens de l'émerveillement qui nous pousse depuis toujours à lever les yeux vers le ciel. Tout au long de l'émission, nous marquerons des pauses musicales afin de rythmer cette exploration et de prendre le temps de réfléchir aux questions soulevées. Installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte du plus grand mystère de l'univers.
Bonjour à tous et bienvenue, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Et j'ai envie de vous parler d'une histoire que j'ai envie de raconter depuis très très longtemps. Installez-vous confortablement, on va parler de l'un des plus gros mystères du système solaire. On va parler de la falaise de Kuiper. Juste pour le fun, on va d'abord commencer par un peu de contexte. Il existe, entre Mars et Jupiter, une ceinture d'astéroïdes qui comprend des dizaines de milliers de petits corps célestes rocheux qui va de la poussière jusqu'aux planétoïdes. Vous êtes sans doute familier avec parce qu'on en entend souvent parler et que certains astéroïdes sont devenus de véritables sujets d'études scientifiques. Ce qu'on ignorait pendant un certain temps, c'est que la ceinture d'astéroïdes n'est pas le seul endroit où on trouve des débris de ce style dans le système solaire. Il y en a une autre, beaucoup plus grosse et surtout beaucoup plus massive, qui a été découverte très récemment et dont on n'a toujours pas vraiment compris l'origine. Après la découverte de Pluton en 1930, la plus lointaine planète jamais répertoriée, on s'est dit que ce n'était sans doute pas la seule planète que l'on pouvait trouver dans les confins du système solaire. En 1951, Gerard Kuiper, un astronome américain, émet l'idée que si on n'observe rien, ou juste pas grand-chose, c'est parce qu'il y a un disque qui s'est formé au début de l'évolution du système solaire et qui n'existe plus aujourd'hui. Et ce disque de débris, comme des planètes ou des astéroïdes, se trouverait au-delà de l'orbite de Neptune, à des milliards de kilomètres. Bon, on va pas faire tout l'historique, hein, mais l'idée d'avoir une grosse ceinture d'astéroïdes au fin fond du système solaire, c'est une idée qui va se répandre de plus en plus au XXe siècle. Il manquait juste la confirmation de cette hypothèse. Ce sera le cas en 1992, lorsque Jane Lew et David Leavitt détecteront le tout premier objet, nommé 1992 QB1, aujourd'hui connu sous le nom d'Albion. Une planète mineure d'une centaine de kilomètres de diamètre et orbitant à plus de 6 milliards de kilomètres du Soleil. Cette région reculée de l'espace s'appellera la ceinture de Kuiper, parce que même si ce dernier est décédé en 1973, eh ben c'est quand même à lui que l'on doit cette découverte. Aujourd'hui, elle contient des milliers d'astéroïdes, de comètes et de petites planètes, et qui mettent des siècles entiers à tourner autour du Soleil. Vraiment des siècles. La ceinture de Kuiper était enfin conceptualisée, et on avait prouvé que ça existait. Aujourd'hui, on sait qu'il existe non seulement des milliers de petits corps de comètes, d'astéroïdes, enfin, vraiment des petits rochers, mais aussi des dizaines de petites planètes, à peu près de la même taille que Pluton. Et ça, on le sait, grâce à un type, Michael Brown. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, y a aussi son équipe. Mais c'est majoritairement lui, quoi. Mike Brown, c'est un peu la légende vivante de la ceinture de Kuiper. À lui tout seul, il va détecter pas moins de 16 planètes naines, dont les plus connues, Sedna, Eris, Gongong. Tout ça, c'est lui. Et c'est son équipe du Caltech qui va populariser la ceinture avec des découvertes de planètes naines dans les années 2000. Et ouais, c'est encore jeune tout ça, hein. Le nombre de découvertes de petites planètes naines a explosé ces dernières années. On vit vraiment l'âge d'or de l'exploration spatiale. Mais la carrière de Mike Brown a été entachée par pas mal de controverses. Non pas qu'il ait fait quelque chose de mal, mais disons que ses découvertes ont suscité des réactions un peu radicales. En décembre 2004, lui et son équipe vont découvrir une planète naine, Haumea, qui se trouve à 7 milliards de kilomètres du Soleil. Il va garder sa trouvaille dans le secret, le temps de peaufiner sa thèse et tous ses articles scientifiques qu'il va finalement publier en juillet 2005. Sauf qu'au même moment, une équipe de la Sierra Nevada en Espagne, menée par José Luis Ortiz Moreno, déclare, elle aussi, avoir trouvé Haumea en se basant sur des prédécouvertes qui datent de 2003. C'est une histoire ultra complexe, les deux équipes se détestent viscéralement, c'est allé jusqu'au hacking des adresses IP de l'équipe de Brown pour essayer un petit peu de surveiller leurs données. Bon, évidemment, les Espagnols diront que, en fait, on voulait juste faire ça par sécurité, bien sûr. Et finalement, l'Union Astronomique Internationale va reconnaître la paternité de la découverte de Haumea à Michael Brown, et il va gagner son procès en 2008. Et même si aujourd'hui Haumea est connu administrativement sous le nom de 2003 EL61, 2003 étant la date de la prédécouverte de l'équipe espagnole, c'est bien à Brown que l'on reconnaît la paternité de la découverte. Donc, quelque part, il a un peu gagné. D'ailleurs, à propos de Haumea, il faudra que je vous en parle un peu en détail un de ces jours, parce que c'est très certainement l'un des corps célestes les plus étranges de tout le système solaire. Mais la véritable controverse liée à Michael Brown, et qui est devenue planétaire, sans mauvais jeu de mots, c'est celle de Pluton, qui était considérée comme la 9e planète du système solaire, jusque dans les années 2000. Sauf qu'en 2005, Michael et son équipe va découvrir Eris, une planète très lointaine et qui est vraiment similaire à Pluton. Et du coup, bah, ça a mis un peu le doute. parce que si on découvre des dizaines de planètes dans la ceinture de Kuiper, on se retrouve avec un bordel pas possible à gérer au niveau de la classification des corps célestes. D'ailleurs, le nom de Eris n'a pas été choisi au hasard, il est très évocateur, parce que dans la mythologie grecque, Eris, c'est la déesse de la discorde. C'est même elle qui a provoqué la guerre de Troie. Donc je pense que c'est la planète qui porte le mieux son nom dans l'espace. Tout ceci a mené à la célèbre rétrogradation de Pluton au statut de planète naine en août 2006 par le biais d'un vote de l'Union Astronomique Internationale. C'est l'une des décisions les plus controversées de l'histoire de la science. Encore aujourd'hui, Michael Brown est assez détesté par une partie de la communauté scientifique, notamment des Américains. Et vous savez pourquoi ? Parce que Pluton a été découverte par un astronome américain, Clyde Tombaugh, en 1930. Et retirer à Pluton le statut de planète classique, au rang de planète naine, hein, en gros planète un peu pourrie, un peu nulle, un peu trop petite, eh ben ça retire aux États-Unis la paternité de la découverte d'une planète. Ça veut dire qu'ils ne font plus partie de l'élite. Bon, l'élite qui est composée de deux nations. Hein, voilà, les Britanniques, pour William Herschel, avec la découverte d'Uranus, et les Français, avec Urbain Le Verrier, pour la découverte de Neptune, en 1846. Et ça, ça va très très mal passer aux États-Unis. Après, c'est pas forcément pour prendre la défense de ses détracteurs, mais faut quand même savoir que le vote de l'UAI, hein, l'Union Astronomique Internationale, est très spécial quand même. Il y a un nombre ultra restreint de gens qui ont voté vraiment et qui ont acté la décision. Il n'y avait pas la VAR à l'époque, il n'y avait pas l'arbitrage vidéo pour cette décision. Voilà, c'est très dommage. Le délire est parti assez loin, Brown ayant reçu des lettres d'insultes et la réputation de tueur de Pluton. Et à votre avis, vous savez comment il a réagi ? Il a sorti un livre, en 2010, où il revient sur toute cette affaire médiatique qui s'appelle « Comment j'ai tué Pluton et pourquoi est-ce qu'il le fallait ?» Ce type est un énorme troll en fait. C'est génial. Mais peu importe sa réputation, ce mec reste quand même une légende vivante qui a permis de démocratiser les découvertes sur la ceinture de Kuiper. C'est pas juste une théorie du siècle dernier. On sait aujourd'hui, depuis la fin des années 90, que c'est quelque chose qui existe vraiment.
Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio et c'est À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h-14h. Aujourd'hui, pour cette 231e émission, nous explorons le plus grand mystère de l'univers. On va marquer une pause musicale avant de poursuivre cette exploration. Voici Sombre avec 12 to 12.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes de retour dans À toi les étoiles sur IDFM Radio, votre émission d'astronomie tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Aujourd'hui, nous consacrons cette 231e édition au thème le plus grand mystère de l'univers. Après avoir posé le contexte, je laisse la main au petit astronome qui va continuer cette histoire ô combien passionnante.
Maintenant qu'on a le contexte, on peut un petit peu parler de la ceinture en elle-même. C'est comme la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais cette fois-ci en beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus massive et beaucoup plus vaste. Ce coup-ci, il est préférable d'utiliser une autre mesure que les kilomètres, c'est l'unité astronomique, ou UA. C'est l'équivalent de la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Voilà. Si je vous dis que Neptune tourne autour de notre étoile à environ 4,5 milliards de kilomètres, c'est bien beau, mais c'est difficile à se représenter dans notre esprit. Alors que si je vous dis que Neptune se trouve à 30 unités astronomiques, là tout de suite, c'est beaucoup plus représentatif. Vous arrivez à visualiser le fait que Neptune est juste 30 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Et ça, bah, ça va avoir son importance par la suite. La ceinture de Kuiper est tellement gigantesque que ses limites ne sont pas vraiment connues. Ça va de l'orbite de Pluton jusqu'à 60 unités astronomiques, soit 12 milliards de kilomètres, trois fois plus loin que l'orbite de Neptune. À cette distance, on reçoit des milliers de fois moins de lumière que sur Terre. Le Soleil est juste un petit point dans le ciel étoilé, mais reste quand même l'étoile la plus brillante. Bah ouais, vous avez beau être au fin fond du système solaire, à l'échelle interstellaire, le Soleil c'est quand même la porte à côté. On pense qu'il pourrait y avoir des centaines de milliers d'objets là-bas. On trouve plein de petites planètes comme Pluton, mais aussi des astéroïdes et des comètes. Et au vu des estimations, la ceinture de Kuiper est 200 fois plus massive que la ceinture d'astéroïdes près de chez nous, entre Mars et Jupiter. Sauf que du coup, ça donne une sorte d'image un peu erronée de la ceinture. En fait, les gens se représentent souvent ça un petit peu comme dans les films, des champs d'astéroïdes extrêmement compliqués à traverser, où seuls les pilotes les plus aguerris de Star Wars peuvent survivre. Sauf que c'est faux. On sait que chaque gros objet est espacé de ses voisins de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, voire des millions. Et quand on découvre une planète naine, on sait qu'elle a fait le ménage dans son orbite. Donc en fait, elle va pas croiser quelque chose à côté d'elle. Sauf si elle a des satellites. En vrai, l'image du champ d'astéroïdes, comme dans Star Wars, ça ressemble plutôt aux anneaux planétaires, comme ceux de Saturne. C'est contre-intuitif à cause des schémas montrés, comme celui-ci, où les plus gros objets de la ceinture de Kuiper sont représentés par des points verts. Et évidemment, la taille de ces points verts sur le graphique ne correspondent pas à la taille réelle des objets dans l'espace. C'est pareil avec les constellations de satellites autour de la Terre, ou bien le nuage d'Oort. On a l'impression de devoir traverser un nuage, alors que c'est composé à 99,9999% de vide. Du bon gros vide spatial où il n'y a absolument rien autour. Maintenant, on peut se poser une autre question. Si la ceinture de Kuiper a été vérifiée dans les années 2000, qu'en est-il de son origine? D'où vient-elle? Eh bien, on ne sait pas. Mais on a quelques pistes. Les objets transneptuniens, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Neptune, sont peut-être des débris d'une ancienne planète lors de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années dans le passé, à l'époque où ça devait ressembler à ça, un disque informe de gaz, de poussière, de roche et de glace. Il y a beaucoup de théories sur le sujet, on va pas tous les évoquer ici parce que c'est très long, et on sait toujours pas vraiment pourquoi est-ce que des petites planètes comme Sedna ou Pluton se baladent très loin dans le système solaire. Les origines de la ceinture ne sont pas encore très claires. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que cette région reculée de l'espace a donné lieu à une énorme controverse, dans le sens où on a trouvé quelque chose, ou plutôt, on a remarqué l'absence de quelque chose. Une absence qui, quand on s'y penche un petit peu, est quand même super bizarre. On a répertorié des centaines d'objets massifs, dont les plus connus, Gong Gong, Haumea, Pluton, Makemake, Sedna, enfin voilà, vous connaissez. Tous sont catégorisés en fonction de leur distance au Soleil, en unité astronomique. Par exemple, Pluton se trouve à 40 UA, donc elle est en moyenne dans son orbite, 40 fois plus loin du Soleil que la Terre. Vous prenez la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, vous la multipliez par 40, vous avez la distance Soleil-Pluton. Et comme on peut le voir sur ce graphique, on a trouvé 200 corps célestes proches de l'orbite de Pluton, puis un passage à vide, et enfin une concentration de 700 objets entre 43 et 48 unités astronomiques. Et puis, juste après, soit vers 7 milliards de kilomètres du Soleil, le nombre d'objets transneptuniens s'arrête brutalement. Au-delà de cette limite, l'espace est quasiment vide. Il y a tellement peu d'objets répertoriés à ce jour après ça depuis 35 ans que ça ressemble vraiment à une cassure. Une limite circulaire qui ne semble pas vraiment naturelle. Et c'est encore plus étrange quand on sait que le reste est réparti de manière homogène. On trouve des objets un petit peu partout, donnant à la ceinture de Kuiper cette espèce d'allure de tore, de donut géant et plat. Le problème, c'est qu'à partir de 48 unités astronomiques, cette homogénéité cesse. Et elle cesse tellement brutalement qu'en vrai, c'est super louche. Dans les années 90, les modèles prédisaient une augmentation de corps célestes en fonction de la distance, simplement parce que les orbites sont plus grandes et que l'espace entre les objets permet une meilleure densité. Et cette chute brutale vers 48 unités astronomiques, en plus d'être extrêmement bizarre, et surtout inattendu. Le pire, c'est qu'on a quand même découvert des objets au-delà de cette limite, comme Sedna par exemple, mais il y en a tellement peu que ça prête à confusion. Cette diminution significative, cet arrêt brutal, on l'a renommé The Kuiper Cliff, ou en français, la falaise de Kuiper. Alors évidemment, c'est pas une falaise à proprement parler, hein, y a pas de chute du Niagara dans l'espace. Hein. Mais plutôt que d'accepter que la ceinture s'arrête juste naturellement comme ça, certains scientifiques ont commencé à élaborer des théories pour expliquer le phénomène. Ou plutôt, expliquer l'absence de phénomène. Et c'est là le cœur du problème. Ça peut paraître banal, mais un tel nombre de théories est impossible à ignorer. On va essayer d'expliquer pourquoi la ceinture s'arrête brutalement et quelle est l'origine de la falaise de Kuiper, qui, encore aujourd'hui, est l'un des plus gros mystères du système solaire et de l'espace en général. J'ai gardé ce que je considère comme les théories les plus intéressantes. Et il y en a 6. Ouais, ça fait beaucoup.
Numéro 1. Phénomène transitoire.
Il est tout à fait possible que la falaise de Kuiper soit un phénomène transitoire, qui se réfère à quelque chose de passager, de temporaire, qui se produit dans une période de temps assez courte, dans notre cas ici, quelques millions d'années tout au plus. Et oui, à l'échelle du système solaire, quelques millions d'années, c'est très court. La raison de ce phénomène ? On sait pas. Voilà. Oui, je suis pas là pour apporter des réponses, mais surtout pour soulever des questions. C'est peut-être dû au passage d'une planète ou d'une comète qui a fait le ménage. En revanche, ça va pas à l'encontre du modèle des années 90, qui prédisait une augmentation du nombre d'objets transneptuniens en fonction de la distance. En gros, c'est pas vraiment une théorie à proprement parler, c'est plutôt un modèle de recherche, une catégorie de théorie. Bon, c'est un peu nébuleux, mais tout ça pour dire que ça peut être à peu près n'importe quoi, sauf que c'est juste temporaire, et que l'humanité est née en plein dedans. Si on vivait 50 millions d'années dans le passé, nous ne verrions pas les anneaux de Saturne, parce qu'ils n'existaient pas à l'époque, et penserions que Saturne a toujours été sans anneaux. Pendant très longtemps, on avait cru que Saturne possédait ses anneaux depuis le début de l'histoire du système solaire. Et bah dans le cas de la ceinture de Kuiper, ce serait à peu près la même chose. Mais bon, j'avoue, c'est pas vraiment la meilleure des explications.
Numéro 2. Glace d'eau.
Cette théorie, je l'aime beaucoup parce qu'elle est particulièrement crédible et réaliste. Les objets de la ceinture de Kuiper sont majoritairement composés de glace d'eau, d'ammoniac ou de méthane, notamment la surface des comètes. C'est surtout ça en fait. Et ces comètes, lorsqu'elles s'approchent un peu trop près de notre étoile, les rayonnements solaires vont souffler un petit peu sur leur surface et sublimer la glace d'eau, c'est-à-dire la faire passer de l'état solide à l'état gazeux, directement, sans passer par l'état liquide. C'est cette sublimation qui est responsable de la queue de poussière, de gaz et de glace que laissent les comètes derrière elles, et qui peuvent mesurer plusieurs millions de kilomètres. Mais il se pourrait même que même au fin fond du système solaire, les vents sont suffisants pour souffler justement la surface des comètes. Mais du coup, une question se pose. Comment ça se fait qu'à des milliards de kilomètres, les comètes peuvent perdre leur glace à cause de la chaleur du Soleil ? Mais que la Terre, qui possède la glace, le pôle Nord de Mars, et de manière générale, les lunes qui tournent autour des géantes gazeuses, qui possèdent des croûtes de glace, comment ça se fait que ces planètes-là, ces lunes-là, ne se subliment pas, alors qu'ils sont quand même beaucoup plus proches du Soleil, donc ils devraient recevoir plus de lumière, plus d'énergie, plus de capacité à être balayés dans l'espace. Alors, déjà parce que notre planète a un champ magnétique, c'est sûr, ça aide, mais surtout, à cause, ou plutôt grâce, à la gravité. Les planètes et lunes ont une gravité suffisante pour maintenir la majorité de leurs éléments à leur surface, ce qui n'est pas le cas des comètes et des astéroïdes. La gravité de surface d'une comète est tellement faible que ça en devient limite burlesque. La vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour s'échapper de l'attraction gravitationnelle d'un objet, là se mesure en centimètres par seconde. À titre de comparaison, pour la Terre, c'est 40 000 km/h. Il faut qu'un satellite atteigne la vitesse de 40 000 km/h pour s'extirper de la Terre. Imaginez, vous êtes à la surface d'un astéroïde ou d'une petite comète. Vous êtes immobile, et là vous décidez de lever un pied. C'est fini. Vous vous envolez, vous allez dans l'espace. Parce que la gravité de la comète est tellement faible qu'un mouvement aussi infime que lever le pied, c'est suffisant pour vous donner une impulsion et partir. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de se poser sur la surface d'une comète. La majorité des sondes ont touché les comètes ou les astéroïdes, ils sont venus, ils ont tapé l'astéroïde et ils sont repartis direct. Et donc, le moindre petit vent solaire est suffisant, même de très très loin, pour arracher les molécules de glace d'eau, de méthane et d'ammoniac. Et comme rien n'est infini, au bout d'un moment, y a plus de glace. Les comètes deviennent de simples astéroïdes, uniquement composés de roches. Le problème, c'est que la roche reflète vachement moins de lumière que la glace d'eau. Et donc, son albédo va diminuer au fil du temps. Pour ceux qui savent pas, l'albédo, c'est la capacité d'un objet à refléter de la lumière. Par exemple, un miroir, c'est un albédo de 1, parce qu'il reflète toute la lumière qu'il reçoit. Alors que l'horizon des événements d'un trou noir, la grosse boule, c'est un albédo de 0, parce que c'est le noir le plus profond que vous pourrez jamais observer dans tout l'univers. Et quand on a des objets dont la magnitude est de plus en plus faible, eh ben ils deviennent progressivement indétectables. C'est peut-être ce qui se passe au-delà de la falaise de Kuiper. On a des milliers d'objets, mais juste trop sombres, car ils ont perdu toute leur glace. En d'autres termes, la diminution apparente du nombre d'objets célestes après 50 unités astronomiques est due à leur composition. Bon après, ça n'explique toujours pas cette limite brutale, cette fameuse falaise de Kuiper. C'est pour ça que cette théorie n'est pas parfaite.
Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio et c'est À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie tous les troisièmes dimanches du mois, 13h-14h. Pour cette 231e émission, nous explorons aujourd'hui le plus grand mystère de l'univers, et plus précisément cette énigmatique falaise de Kuiper située aux confins de notre système solaire. Nous venons d'évoquer la deuxième théorie qui tente d'expliquer l'existence de ce mur mystérieux. On marque une nouvelle pause musicale avant de poursuivre avec la suite de ces hypothèses. Voici Reflet par M. Pokora.
On s'est construit un monde qu'on a abandonné.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes de retour dans À toi les étoiles sur IDFM Radio, votre émission d'astronomie tous les troisièmes dimanches du mois. Aujourd'hui, nous consacrons cette 231e émission au thème le plus grand mystère de l'univers. Après avoir passé en revue les premières hypothèses autour de la falaise de Kuiper et notamment la théorie numéro 2, nous poursuivons maintenant avec la troisième théorie qui tente elle aussi d'expliquer l'existence de cette frontière énigmatique aux confins du système solaire, avec le petit astronome.
Numéro 3, les géantes gazeuses.
Celle-là, c'est l'une de mes préférées parce qu'elle fait appel à l'un de mes sujets de prédilection, l'astrodynamique. Cette hypothèse explique que les interactions gravitationnelles avec des géantes gazeuses auraient joué un rôle quant à la distribution des objets dans la ceinture de Kuiper, entraînant un regroupement dans certains endroits et une dispersion dans certaines zones. Comprenez bien que les corps célestes ne décident pas d'orbiter comme ça spontanément autour du Soleil. S'ils orbitent de telle manière à telle distance, c'est parce qu'ils sont influencés par tous leurs voisins autour d'eux, et ce depuis des milliards d'années. Et c'est aussi pour ça que les orbites des planètes sont extrêmement stables au fil du temps. Et s'il n'y a rien vers 48 unités astronomiques, près de la falaise de Kuiper, c'est peut-être parce que dès qu'une planète naine se met à cette distance, son orbite n'est juste pas stable au fil du temps. On a deux suspects principaux. Neptune, parce que c'est la géante gazeuse la plus proche, et Jupiter, parce que c'est la plus grosse planète du système solaire et que son influence gravitationnelle est énorme, même si elle est 10 fois plus proche du Soleil que de la ceinture de Kuiper. Peut-être qu'un objet vers cette zone, une planète, ou n'importe quoi d'autre, ne peut pas rester en orbite indéfiniment, parce que à cause de l'influence des deux autres planètes, cette orbite-là devient instable. On sait déjà que les forces exercées par les géantes gazeuses peuvent conduire à ce genre de déviation de trajectoire pour les objets les plus petits. C'est particulièrement le cas dans le système solaire extérieur parce qu'ils sont très très loin du Soleil, donc c'est beaucoup plus facile de dévier les trajectoires. Et c'est pas le cas chez nous dans le système solaire intérieur, là où il y a les planètes rocheuses, simplement parce qu'on est vraiment très près du Soleil. Et que même si Jupiter a quand même une grosse influence, la gravité de notre étoile prend le dessus. C'est aussi l'une des raisons qui prouve que l'astrologie, ça ne fonctionne pas. Mais bon, c'est pas le sujet. Bref, c'est une explication plausible. Mais encore une fois, ça n'explique pas tout. Il y a une autre hypothèse de ce style qui nous dit que si la falaise de Kuiper existe, c'est simplement parce que c'est comme ça depuis le début du système solaire. Certaines planètes, comme Neptune, auraient pu subir des mouvements importants dans son orbite, ce qui a fait le ménage dans la ceinture et s'est resté depuis. D'autres suggèrent l'existence d'une ancienne planète qui s'est baladée par là-bas lors de la formation du système solaire et qui, pour une raison ou une autre, a été éjectée de notre voisinage il y a des milliards d'années. On n'en sait pas plus, les recherches continuent.
Numéro 4, biais observationnel.
Celle-là, elle est un peu méta parce que c'est plus psychologique qu'autre chose, mais en vrai c'est très intéressant. Le biais observationnel suggère que ce qu'on observe de la ceinture, ainsi que de la falaise qu'on a imaginée, n'est simplement que le fruit de notre imagination basée sur nos connaissances actuelles et nos limitations technologiques. En gros, on constate l'absence de quelque chose, c'est pas normal selon nos modèles, et donc on s'imagine qu'il y a autre chose qui est responsable de ça. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. La première chose, c'est la distance. C'est très compliqué de détecter des objets aussi petits et lointains, avec une taille apparente minuscule dans le ciel. La majorité sont des images radar, même pas en lumière visible, ultra pixelisées. On n'a pas d'image en 8K pour chaque objet. Peut-être qu'on n'a juste pas les bons outils ou radiotélescopes performants pour en détecter massivement au-delà, et que le nombre de découvertes coïncidera avec l'amélioration des technologies. Comprenez bien, on a déjà observé des trucs au-delà de la falaise. On en a juste observé trop peu pour que ce soit naturel. Mais peut-être qu'on n'en sait juste pas assez. Ou peut-être que c'est juste tellement loin qu'il faut attendre plusieurs années, plusieurs décennies pour avoir la technologie nécessaire afin de détecter des astéroïdes aussi petits avec une taille apparente aussi minuscule dans le ciel. En gros, les limitations de notre époque nous donnent un sentiment biaisé et nous donnent l'impression qu'il y a une falaise. Peut-être que dans 50 ou dans 100 ans, on aura découvert des centaines de milliers d'objets comme prévu. On se dira qu'on était assez naïf dans les années 2000 à penser avoir une falaise cosmique devant nous, simplement parce qu'on ne pouvait pas voir ce que l'on voit aujourd'hui. Cette théorie, elle a quand même un point faible, c'est qu'elle peut amener un sentiment relativiste. Et en science, le relativisme, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça veut dire que tout se vaut, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de bonne théorie, de mauvaise théorie, et surtout, ça permet de justifier absolument tout et n'importe quoi. Même si les scientifiques qui ont émis cette hypothèse n'avaient évidemment pas l'intention d'être des gros relativistes qui veulent tout mettre à plat. Ou peut-être aussi qu'il y a une explication très simple et qui règle tout.
Numéro 5. Limite naturelle.
C'est probablement l'hypothèse qui fait le plus mal, mais également la plus simple, la plus clinique. Peut-être que la ceinture de Kuiper s'arrête brutalement vers la falaise, autour de 48 unités astronomiques, et c'est tout. Point. Et que peu importe l'explication, ça s'arrête et c'est comme ça. L'idée d'une falaise vient simplement du fait que les astronomes se demandent pourquoi, après des décennies de recherche, on observe une chute drastique d'objets à cette zone. Peut-être que cette chute est simplement le bord naturel de la ceinture. Peut-être que c'est juste ça en fait. On a trouvé d'autres objets plus loin, comme je l'ai dit précédemment, mais qui font pas vraiment partie de la ceinture de Kuiper. C'est plutôt vraiment dans l'espace quasiment interstellaire. Et peut-être qu'il faut juste l'accepter comme ça. Comme la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, elle a forcément une limite, il y a forcément un moment où il va plus y avoir grand-chose. Donc voilà, je pense que le mystère est résolu et que fallait pas se prendre la tête pour rien. Mais il y a une dernière théorie, que j'ai évidemment gardée pour la fin parce que c'est la meilleure, c'est la plus sensationnaliste aussi, c'est le moment que vous attendez tous.
Numéro 6. Planète cachée.
Depuis la rétrogradation de la planète Pluton en 2006, la recherche pour une véritable neuvième planète hypothétique aux confins du système solaire n'a jamais été aussi populaire. Ça fait également référence à la planète X, qui est recherchée depuis le 19e siècle et qui devrait expliquer les perturbations gravitationnelles d'Uranus et Neptune. Et comme on l'a toujours pas trouvé, c'est vraiment devenu un véritable mythe de l'astronomie et de l'exploration spatiale. Il y a également la planète 9, le nom donné à l'une des hypothèses sur la planète X, et qui a été théorisée en 2016 par Michael Brown. Ouais, t'as l'impression que le mec a envie de se racheter après avoir tué Pluton. Parce que si vraiment il la découvre, cette planète 9, je pense qu'il gagne le prix Nobel direct. Évidemment, tout ceci a été le terreau fertile pour pas mal de mouvements New Age, notamment la planète Nibiru, c'est vraiment pas bien Nibiru, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Mais il y a un truc que j'ai volontairement évité de parler, et qu'on va aborder maintenant, c'est la résonance orbitale. Dit comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple à comprendre. La résonance orbitale, c'est simplement le rapport mathématique entre les orbites des planètes du système solaire. Et comme mentionné précédemment, elles sont extrêmement stables, parce que ça fait des milliards d'années que ça dure. Même Mercure, où c'est un peu n'importe quoi, c'est quand même stable. Nous sommes nés avec cette influence, nous vivons avec, et elle sera présente bien après notre disparition. On a des rapports mathématiques assez harmonieux dans l'espace, notamment entre la Terre et Vénus par exemple, qui a un rapport de 8-13. Quand la Terre accomplit 8 orbites autour du Soleil, Vénus en accomplit 13. En gros, 8 ans sur Terre, bah c'est 13 ans sur Vénus. Mars et Vénus ont une résonance de 1 sur 3. C'est-à-dire que une année martienne, donc une orbite de Mars autour du Soleil, et bah c'est pile 3 orbites de Vénus. Et ça, c'est pas un délire mystique, hein, c'est simplement le travail de la gravité depuis des milliards d'années. Si les orbites n'étaient pas stables aujourd'hui, on n'en serait pas là. La planète la plus intéressante dans ce domaine, c'est Neptune. Elle est en résonance quasi parfaite avec plein d'objets autour d'elle. Déjà, elle a un rapport de 1 sur 14 avec Jupiter. Quand Neptune accomplit une orbite autour de notre étoile, dans ce même laps de temps, Jupiter en a fait 14. Ça vous donne une idée de la distance lointaine. On associe souvent les géantes gazeuses ensemble, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, mais en vrai, Jupiter est beaucoup beaucoup plus proche de nous que de Neptune. Et j'ai pas abordé le cas de Pluton, qui est en résonance avec Neptune. Quand Neptune fait 3 tours autour du Soleil, en 495 ans, Pluton en fait 2, en 496 ans. Bref, je pense que vous avez compris le principe, vous avez vu, c'est vraiment extrêmement simple. Mais que se passe-t-il quand on décide de faire quelques petites expériences avec Neptune ? Dans la ceinture de Kuiper, on a plusieurs familles d'objets. Les Plutinos vers l'orbite de Pluton, les Subuanos jusqu'à une distance de résonance 1 sur 2 avec Neptune, et enfin les Tuotinos, des petits corps qui se trouvent à plus de 8 milliards de kilomètres du Soleil. Là où ça devient clairement étrange, c'est la résonance 1 sur 2, qui se trouve à 47,8 unités astronomiques de notre étoile, soit 7 milliards et 170 millions de kilomètres. C'est quand même très très loin. Si je décide de placer une planète hypothétique sur une orbite circulaire là-bas, elle sera en résonance parfaite de 1 sur 2 avec Neptune. C'est-à-dire que quand Neptune tournera 2 fois autour du Soleil, cette planète tournera une seule fois. Donc sa période orbitale est 2 fois plus longue que Neptune, donc ça fait 330 ans. Donc on a une orbite potentielle super stable à environ 48 unités astronomiques. Et vous savez ce qui se trouve également à 48 unités astronomiques ? La falaise de Kuiper.
Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio et c'est À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie tous les 3e dimanche du mois, 13h-14h. Aujourd'hui, pour cette 231e émission, nous explorons le plus grand mystère de l'univers aux confins de notre système solaire, raconté par le petit astronome. Quel suspense, justement ! Eh bien, on va marquer une dernière pause et juste après, le suspense sera levé. Voici Aaron Ebel avec Set Me Free. Ah
diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Dernière partie de cette émission, À toi les étoiles sur IDFM Radio, votre émission d'astronomie tous les 3e dimanche du mois, 13h-14h. Je vous rappelle que pour cette 231e édition, nous sommes au cœur du thème le plus grand mystère de l'univers, raconté par le petit astronome. La falaise de Kuiper, et il nous a laissé sur un suspense. Eh bien, levons maintenant le voile sur cette énigme et voyons ce que la science nous permet ou non d'en comprendre aujourd'hui.
Est-ce qu'une planète, sombre, inconnue, pas encore découverte, pourrait être responsable de la limite de la ceinture de Kuiper ? N'est-ce finalement pas cette fameuse 9e planète que l'on cherche désespérément depuis des siècles et qui du coup expliquerait beaucoup de choses quant à l'orbite de Neptune. En plus, une planète dans cet endroit aurait balayé un petit peu son voisinage avec son orbite. Ce qui du coup est parfaitement cohérent avec la falaise de Kuiper, c'est pour ça qu'on trouve rien là-bas. Et cette planète, eh ben il faut la trouver. Mais petit problème, on n'a jamais découvert un truc aussi gros et aussi loin dans le système solaire. Du moins, pour le moment. Donc, soit cette planète n'existe pas, il faut trouver autre chose, soit elle existe, et il faut la découvrir par des moyens détournés. Par exemple, en analysant des objets extérieurs à tout ça, et dont l'orbite trahit une déviation de trajectoire par cette dite planète. Le fait est qu'on a plein de raisons de penser qu'il existe une grosse planète aux confins du système solaire, à des dizaines de milliards de kilomètres, que ce soit la planète 9 de Michael Brown, ou bien Perséphone, Super Pluton, bref, des noms donnés à d'autres objets hypothétiques, sauf que toutes ces potentielles planètes vont orbiter beaucoup plus loin que vers la falaise de Kuiper. Et ça, ça nous arrange pas du tout, parce que nous, on veut trouver un truc là-bas. On veut pas trouver un truc 100 fois plus loin. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un article datant de 1999 de la BBC qui répertorie les travaux du docteur John Murray de l'Open University au Royaume-Uni, qui déclare avoir analysé la trajectoire de certaines comètes dans le nuage de Oort, donc vraiment aux confins de l'espace. Et il affirme que quelques-unes auraient pu être déviées par une planète qu'on n'a toujours pas trouvée.
En analysant les orbites de 13 des comètes que j'ai pu détecter, l'effet est assez concluant. J'ai calculé qu'il y a environ une chance sur 1700 pour que cela soit dû au hasard.
Une chance sur 1700. Bon. Faut rester sceptique quand même. Parce que si jamais c'est le cas, cette planète pourrait se trouver à des centaines d'unités astronomiques. Et donc beaucoup trop loin pour influencer la falaise de Kuiper. On est littéralement noyé dans plein de théories de planètes hypothétiques qui pourraient expliquer plein de choses, mais qui au final n'explique pas notre problème à nous. Mais j'avoue que la théorie d'une planète similaire à celle de Pluton, voire la taille de la Terre, qui se balade dans la falaise de Kuiper, donc dans une orbite stable avec Neptune, bah c'est quand même sacrément crédible. Maintenant, comment se fait-il que l'on ne l'ait toujours pas découverte? Mystère. Mais en tout cas, les recherches continuent. À titre personnel, l'hypothèse que je privilégie, c'est celle du biais observationnel. On n'a juste pas assez d'informations et dans le cadre de l'esprit critique, eh ben, il faut partir du principe que on est peut-être simplement limité par notre technologie actuelle plutôt que d'essayer d'avoir des conclusions hâtives. On n'a peut-être juste pas assez d'éléments et du coup, on se prend la tête avec cette falaise que l'on a soi-même conceptualisée, mais qui a quand même inspiré les scientifiques à essayer d'élaborer des théories pour percer à jour un mystère lointain à 7 milliards de kilomètres du Soleil. Peut-être bien que les modèles dans les années 90 qui prédisent une augmentation de planètes, d'astéroïdes ou de comètes au-delà de cette limite avaient vu juste. Mais comme on n'a rien découvert de probant, on peut pas vraiment savoir. Si jamais on trouve une explication, cette vidéo risque d'être obsolète dans les prochaines années. Mais c'est pas grave, parce que ça sera au moins un témoignage de nos connaissances actuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vraiment, j'espère que vous avez aimé, parce que moi j'ai adoré la faire, et je compte sur vous pour le bouche à oreille, pour en parler autour de vous, et de me donner des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment ce que je veux faire à l'avenir, il y a une place à se faire dans ce genre de format, surtout au niveau de l'espace, donc voilà, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et j'espère aussi que ça amènera un public nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, regardez les autres épisodes, et moi je vous dis à très bientôt. Salut.
Et voilà, cette 231e émission d'À toi les étoiles touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble le plus grand mystère de l'univers, aux confins de notre système solaire, là où se dresse cette énigmatique falaise de Kuiper qui continue de questionner la science et notre compréhension du cosmos. Je tiens à remercier chaleureusement le petit astronome pour la qualité de son travail ainsi que pour l'autorisation de diffusion de ce contenu dans À toi les étoiles. Si ce sujet vous a passionné, je vous invite à découvrir ses autres réalisations sur sa chaîne YouTube Le Petit Astronome. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie tous les 3e dimanche du mois de 13h à 14h sur IDFM Radio. La prochaine émission aura lieu le dimanche 15 février de 13h à 14h. J'aurai le plaisir de retrouver le parrain de l'émission, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, pour parler d'un événement majeur de l'exploration spatiale, la mission Artemis 2, première mission habitée du programme de retour vers la Lune, dont le lancement aura lieu le 7 février prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, gardez la tête dans les étoiles, et prenons de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Au revoir à tous, et merci pour votre fidélité.
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les 3e dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.